France Culture.
On repart à l'assaut de la culture. Les midis continuent tout à l'heure à 13h. Je recevrai la comédienne et performeuse Vima La Ponce. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le réalisateur et metteur en scène Christophe Honoré s'attaque, lui aussi, au chef-d'œuvre de Flaubert, Madame Bovary, en tournée partout en France. Son adaptation propose une relecture très personnelle de la figure d'Emma Bovary. Nous en parlerons d'ailleurs à ce micro dans le débat critique de lundi prochain. Force est de constater qu'Honoré s'inscrit dans une gigantesque liste d'artistes qui, chacun dans leurs médias respectifs, se sont emparés très librement du roman de Flaubert. Emma Bovary, inépuisable source d'inspiration, c'est le dossier du Point Culture du jour. François Aubard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition et éditeur. Vous enseignez la théorie de l'art à l'École nationale de Paris-Cergy. Et vous venez de faire paraître aux éditions Les Pérégrines un essai intitulé Bovary. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, qu'il y a un concentré de l'âme française dans Madame Bovary ?
Je voudrais pas donner tort à notre président sur tous les sujets. Il n'a pas complètement tort, effectivement. C'est un des exemples que je donne au début de mon livre. À la fin de l'entretien, la personne qui l'interview lui demande quel livre il aimerait offrir à tous les Français et les Françaises. Et Emmanuel Macron répond « Madame Bovary ». Et effectivement, l'argument d'Emmanuel Macron, c'est que Flaubert a... capturer l'âme de la France et notamment beaucoup celui des femmes, et qu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est un concentré de l'âme française. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Je pense que c'est partiellement vrai, dans la mesure où effectivement le livre de Flaubert, Madame Bovary, est surtout un concentré de stéréotypes. Et les stéréotypes, c'est très pratique parce que ça permet de dire. Tout est son contraire.
Mais c'est aussi ça qui est intéressant quand on vous lit, c'est que Madame Bovary est non seulement l'un des romans les plus lus, mais aussi les plus adaptés, films, BD, photographie, peinture, installation, performance, théâtre et j'en passe. Comment expliquez-vous que ce texte donne lieu à autant d'interprétations, puisque c'est votre mot? Est-ce que c'est justement parce que c'est un livre fait de stéréotypes?
C'est une des idées que je développe dans le livre, c'est qu'effectivement... Il y a énormément d'interprétations au cinéma, il y en a entre 24 et 26, et un nombre assez incalculable d'œuvres d'art qui vont de la peinture de la fin du 19e siècle à des installations et des performances au début du 21e siècle. Donc évidemment, sur cette large période de temps, les raisons pour lesquelles on s'intéresse à ce roman sont à chaque fois très diverses. Ça raconte la vie d'une femme, ça raconte la vie d'une femme vue depuis le point de vue d'un homme, et effectivement, ça a été un levier pour des relectures, plutôt à la fin du XXe siècle, des relectures féministes de ce que ça veut dire entre hommes de regarder des femmes. Et il y a une part très male gaze, regard masculin dans le livre de Flaubert. Et les stéréotypes, c'est effectivement quelque chose qui peut être reconsidéré, re-regardé.
Mais alors justement, dans les artistes contemporains aujourd'hui en 2025, comment ils essentialisent Emma Bovary? Quels stéréotypes ils préfèrent?
Quel stéréotype ils préfèrent? Alors, c'est vraiment très divers. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens comme Barbara Bloom qui se sont intéressés à la correspondance entre Flaubert et sa compagne, enfin son amante Louise Collet. Il y a des gens comme l'artiste performeuse Cali Spooner qui se sont intéressés à la façon dont le premier amant de Emma Bovary lui ment et lui écrit des lettres qui sont bourrés de faux sentiments, de sentiments qu'il ne vit pas et que Cali Spooner lit à quelque chose de très contemporain, qui est le fait d'envoyer des émoticônes. Yvonne Rainer, qui est une artiste des années 70, s'est intéressée par la bande à Emma Bovary parce qu'un de ses films très célèbres, qui s'appelle Lives of Performer, commence par une citation de Léo Bersani qui analyse la façon dont le glamour est utilisé dans le livre de Flaubert. Donc en fait, le livre de Flaubert, il est plein de matériaux qui sont... relus à différentes sauces et qui vont jusqu'à des adaptations pornographiques. C'est-à-dire qu'il y a dans la filmographie des adaptations de Flaubert, il y a deux films porno et quelques films plus ou moins licencieux.
Est-ce que ces variations, ces réécritures et toutes ces interprétations de Bovary permettent au personnage du livre et à Emma Bovary en particulier de sortir de la caricature ou au contraire l'y enfonce à chaque fois? J'ai toujours l'impression, et vous le dites depuis le début, hein, qu'on parle de stéréotypes, d'essentialisation et donc de caricature. Est-ce qu'on arrive quand même, est-ce que l'art et ses médias permettent de sortir de cette caricature-là?
Bah, je crois pas. En fait, je pense que les stéréotypes, c'est des stéréotypes. On peut effectivement, on peut les recolorer, on peut les détourner, on peut les pervertir, on peut leur faire dire l'inverse de ce que leurs auteurs voulaient dire. Et effectivement, je pense que Bovary est intéressante pour ça, parce qu'en fait, on voit des relectures qui n'ont rien à voir avec ce qui se disait au XIXe siècle. Madame Bovary, je pense, sera un éternel stéréotype. Mais un stéréotype qui peut être la figure d'une forme de soumission au divertissement, comme une rebelle qui essaye, en trompant son mari et en choquant les gens de son village, qui essaye d'atteindre son émancipation. Donc en fait, elle s'appuie vraiment sur un stéréotype. Et Emma Bovary, c'est pas une femme qui existe. C'est pas une femme qui a existé. C'est pas la vie de quelqu'un de factuel. C'est un stéréotype. Et effectivement, on peut la relire continuellement. Et je pense qu'on continuera à le faire pendant longtemps.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, Flaubert nous donne moult détails sur sa garde-robe, son intérieur, plein de choses comme ça. Par contre, on a du mal à se l'imaginer physiquement. Les traits physiques de Emma Bovary ne sont pas décrits, donc chacun peut l'imaginer comme il le souhaite. Est-ce que c'est aussi dans ce flou-là que se cache son iconisation ?
Très probablement, effectivement. Enfin, c'est une des choses assez passionnantes avec ce livre, c'est qu'effectivement, Flaubert, alors qu'il avait une très grande croyance en son écriture, disait mon livre ne doit pas être illustré. Mon livre ne doit pas être illustré parce que ce que je raconte, ça vous invite à l'imaginer. Et donc, c'est de l'imagination qu'il met en jeu et pas la représentation. Donc, effectivement, il donne beaucoup de détails d'un tout un tas de choses, mais très peu de son personnage.
C'est terrible cette histoire d'illustration, parce que ce qu'on vient de dire là depuis qu'on a commencé l'entretien, François Aubard, c'est que justement, après la mort de Flaubert, tous les artistes ou presque se sont lancés dans l'illustration de ce roman.
Alors bah oui, deux ans après la mort de Flaubert, il y a une grande peinture d'Albert Fourier qui apparaît au salon, qui est la mort de Emma Bovary. Et à partir de là, les représentations se multiplient. Cet Albert Fourier, il fait quelques illustrations, donc effectivement le livre commence à être illustré. Et puis en fait, le livre... Il est très largement traduit, réimprimé, réédité, etc. Et l'histoire du livre fait que il faut des couvertures à partir du milieu du XXe siècle. Et donc, il faut bien trouver des images. Et à ce moment-là, il y a des images qui apparaissent. Et effectivement, le cinéma s'en empare aussi. À partir des années 30, il y a des adaptations au cinéma. Et là, effectivement, il faut choisir une actrice pour incarner Emma Bovary. Et puis, tout au long de ces films et œuvres, Madame Bovary commence à avoir un visage, je pense, contre ce que espérait Flaubert, parce qu'effectivement, là, on passe dans un régime qui est beaucoup plus visuel que descriptif.
Bien, merci beaucoup, François Aubard. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à votre essai qui vient de paraître aux éditions Les Pérégrines, qui s'appelle Bovary. Merci beaucoup.
Super, merci à vous. Au revoir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, un couple de producteurs de cinéma accusés de violences sexuelles par d'anciennes salariées.
Oui, l'enquête parue dans le média Les Jours révèle les accusations de 12 femmes à l'encontre de Thierry Lounas, directeur de la boîte de production et maison d'édition Capricci, qui édite notamment la revue Sofilm, et de sa compagne Claire Bonnefoy, réalisatrice et directrice de la société de production Bobby Lux. Dans cette enquête, d'anciennes salariées dénoncent des faits de harcèlement et d'agression sexuelle, évoquant même un système de prédation. Le couple conteste ces accusations, mais la présidente du groupe Capricci a mis en retrait Thierry Lounas à titre conservatoire. Un collectif de salariés a publié un communiqué pour condamner les agissements supposés de leur directeur et apporter leur soutien aux victimes.
Une tribune parue dans le journal Le Monde alerte sur les restrictions d'utilisation de deux bois exotiques nécessaires à la confection d'instruments.
Oui, signée par plus de 300 musiciens et luthiers, cette tribune tire la sonnette d'alarme sur les restrictions du pernambouc et les difficultés d'apprivoisonnement en grenadine. Alors, la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction pourrait classer le pernambouc dans la catégorie des espèces les plus menacées. Oui, mais voilà, cela rendrait impossible l'utilisation de ce bois nécessaire à la réalisation des archers. Dans le même temps, les luthiers français ont beaucoup de difficultés pour se fournir en grenadille, bois nécessaire à la fabrication d'instruments à vent. Ces deux essences rares ne possèdent pour l'instant aucun substitut de qualité sonore et technique équivalent. Conscient des enjeux écologiques, le collectif rappelle que le monde de la musique utilise de toutes petites quantités de bois pour confectionner ses instruments. Ils appellent ainsi à la mise en place de quotas pour assurer un approvisionnement nécessaire à la qualité de leur pratique musicale.
Et pour finir, Marie, la ville de Paris rend hommage à Jean-Luc Lagarce.
Oui, la municipalité inaugure aujourd'hui une plaque commémorative en l'honneur du dramaturge mort il y a 30 ans. La plaque sera dévoilée lors d'une cérémonie hommage devant l'immeuble du 15 rue Diderot dans le 14e arrondissement de Paris, dans lequel il vécut une partie de sa vie. Considéré comme l'un des plus grands auteurs français de la fin du 20e siècle, atteint par le virus du sida, Jean-Luc Lagarce s'est éteint le 30 septembre 1995.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.